Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Heureusement en France. Vous êtes sur Radio Campus 106.6 FM. Aujourd'hui, nous sommes quatre pour animer cette émission. Il y a même François, je suis accompagné de Reynald.
Bonjour à tous.
Pierre-Yves.
Hello tout le monde.
Et Dominique.
Salut à tous.
Alors, c'est vrai que dans cette période où on reste chez nous et on enregistre l'émission à la maison, ça nous donne une belle opportunité d'inviter avec nous Pierre-Yves, qui est un membre de nos podcasts, dans l'Another Podcast, qui n'est plus dans la région lilloise. Donc voilà, c'est une bonne occasion de te revoir parmi nous.
Ça me manquait, c'est vrai que ça fait très plaisir de vous entendre. Et puis, c'est vrai que dans ces périodes où on ne rencontre pas grand monde, ça fait du bien d'entendre vos voix. Effectivement, là, je suis à Nantes.
Les studios de Radio Campus.
Le studio. Ouais. Ah, ça fait très longtemps que je suis pas allé.
Alors, je vous propose, comme d'habitude, d'ouvrir un peu avec l'agenda qui s'est un peu réduit, on peut le dire. Mais il y a quand même des événements qui vont être maintenus. Il y a un festival qui va maintenir son édition, c'est Motocultor. Qu'est-ce donc que Motocultor, Dominique ?
C'est que des... Oui, c'est comme le Hellfest, j'ai pas de bêtises, hein. Renald, rassure-moi.
Oui, c'est un festival où il y a beaucoup de métal, on va dire.
Parce que lui, comme ça, moi, j'ai l'impression que c'était pour les agriculteurs et qu'ils pouvaient diriger des tracteurs et compagnie, quoi, un motoculteur. Mais bon.
Un peu comme Farm Simulator, lors de la Paris Games Week, il y avait vraiment un stand énorme et des compétitions. Mais non, le motoculteur, c'est pas ça du tout. Apparemment, c'est un peu un festival de musique, je pense. Qui...
Ouais, c'est du heavy metal, ouais.
Yes. Ah, dans le Morbihan, en plus. À Saint-Nolf, en Bretagne. Très bien.
Mais ce qu'on a pu voir, notamment avec le Hellfest, c'est que forcément, ils ont annulé leur festival, mais ils ont quelques problèmes d'assurance, puisque c'est vrai, lorsque vous montez des festivals de telle ampleur, il faut forcément avoir une assurance, mais pour le coup, ça s'est pas très bien passé.
Bah, en fait, ils ont signé une assurance pour au cas où, si jamais ils devaient annuler le festival, avec une clause qui concernait justement tout ce qui était pandémie. La clause de l'assurance était que ils remboursaient uniquement si la signature du contrat était avant la déclaration par un état administratif français, enfin une autorité administrative française ou l'OMS, de la date d'une pandémie et de la pandémie en question. Ils ont signé leur contrat en décembre 2019, de mémoire, enfin d'après ce que j'ai lu dans l'article.
Et avant normalement l'apparition officielle du virus en Chine, voilà. En tout cas lorsqu'elle a été communiquée.
Et qui n'était pas encore déclarée comme pandémie, mais comme une épidémie potable, enfin potentielle, pardon. Et ce qui fait que, normalement, l'annulation de l'Hellfest devait être remboursée par l'assurance. L'assurance leur a dit tout simplement non. Donc, ils sont partis sur peut-être des années de bataille juridique pour se faire rembourser, mais c'est pas comme ça qu'ils vont avoir l'argent pour pouvoir faire leurs frais et surtout peut-être faire un Hellfest de l'année prochaine.
Oui, mais ce qui est bizarre, c'est qu'en ces temps de confinement, il n'y a plus d'accidents de voiture, il n'y a plus de cambriolage, etc. Donc, ils sont en train d'engranger de l'argent, ils ont moins à payer.
Ils ont moins à payer, ils ne payent rien de ce qu'ils doivent. Moi, je dis chapeau, parce qu'il y en a qui vont bien s'en sortir dans cette crise, et je pense que ça sera peut-être eux.
Mais ils vont peut-être baisser les primes d'assurance.
Bien sûr.
On peut rêver.
Ils ont bien baissé le prix de l'essence.
Dis-toi qui c'est là pour le Hellfest, on parle d'une somme que je pense être de mémoire de 175 000 euros. Dis-toi que même s'ils partent en justice pour essayer de se la faire rembourser, le temps que ça passe au tribunal, qu'il y a des appels, des machins et des bidules, ça va faire plusieurs années. Pendant ce temps-là, l'assurance va mettre ça sur un compte, va faire tourner l'argent. Et quand ils vont dire « Ah bah tout compte fait, on avait tort, on vous renvoie les 175 000 euros sans problème », même avec les frais de justice, ils auront pu engranger beaucoup plus en attendant. Quoi. Donc,
alors, le Hellfest, pour essayer de contrecarrer ça et surtout pour essayer d'avoir une édition de 2021 qui sera possible, sans avoir déjà des dettes à régler, de faire un appel aux dons, tout simplement.
Oui, mais pas pour eux. Parce que eux, ils ont déjà prévu le 18 jusqu'au 18-21 juin 2021 pour la prochaine édition de Hellfest. Mais comme ils avaient enclenché de l'argent en se disant que nous, on est plus solidaires que notre assurance, on fait le projet d'aider le CHU de Nantes pour un don, pour les aider justement à combattre ce Covid-19. Ils avaient fait le projet sur un site qui est Hello Association, donc Hello Asso.
Oui, c'est avec ça. Un H.
Voilà. Hello Asso. Ils avaient mis un projet comme un Kickstarter possible, qui est de 66 666 euros. Hellfest, on se refait pas. Voilà. Comme objectif pour les dons pour le CHU de Nantes. Eux, ils avaient prévu déjà dans leur budget 20 000 euros de paiement de sortie de trésorerie pour justement payer toutes les possibilités, les personnels de soins qu'il allait avoir lors du festival. Comme il a été annulé, ces 20 000 euros, ils les remettent directement dans la cagnotte. Et ils appellent aux personnes, aux métalleux et aux personnes qui aiment le Hellfest, de faire un don sur cette cagnotte pour justement le CHU.
Et voilà, c'est assez amusant de mettre ça en contradiction avec la vision simpliste qu'ont certaines personnes qui ne connaissent pas le Hellfest, en pensant que voilà, c'est le diable et qu'on va sacrifier je ne sais pas quoi sur scène. Et en fait,
ça n'empêche pas. Hein.
C'est encore plus bon enfant que ça n'empêche pas. C'est plus bon enfant que certains festivals. Voilà.
Petit rappel, donc le Motoculture Festival qui aura lieu, on n'a pas donné les dates, ça sera du 13 au 16 août à Saint-Nolff. Périve, dans quelle région?
Oui, et Morbihan, du coup.
Bravo.
On a Monsieur Géo avec nous.
En sachant que un mois avant, alors pas très loin, c'est dans le Finistère, mais bon, c'est juste à côté, du coup, il y a le Festival des Vieilles Charrues, par contre, qui, lui, a été annulé. Donc alors vous pourquoi... ne pourrez pas entendre Céline Dion.
Et tu avais déjà réservé tes places, juste pour ça, parce que Las Vegas, ça coûtait encore. Trop cher.
Pas encore. Mais parce que, oui, parce que confinement, du coup.
Allez, je vous propose d'enchaîner avec, cette fois-ci, un peu de jeux de société. On avait parlé la dernière fois de jeux qu'on pouvait imprimer soi-même. Et c'est vrai qu'Asmodée, lui, a mis une grosse partie de sa collection. Or, je pense qu'on avait déjà cité une bonne partie, mais je vois qu'il y a également des jeux tels que Dixit qui sont disponibles à l'impression, et même des petites escape games. Donc c'est assez sympa. Tout ça sur le site d'Asmodée. Mais pourquoi est-ce qu'on parle d'Asmodée? Puisque j'ai vu que dernièrement, ils ont mis une nouvelle version de Agricola sur Google Play. Or, jusque-là, rien d'innovant, mais... Vu que Asmodée a récupéré les droits de Agricola, ils ont enlevé du App Store la dernière application pour en mettre une nouvelle qui est quasiment identique, avec peut-être quelques améliorations, en refaisant payer complètement aux joueurs le prix de 5 euros.
Au lieu de faire une simple mise à jour, par exemple.
Effectivement, juste pour un changement de nom d'éditeur. Aucun bonus si vous aviez acheté le jeu avant. Ce qui a, il faut dire, plus ou moins révolté beaucoup de joueurs, puisque si vous aviez acheté le jeu et que demain, toute votre expérience est perdue, puisqu'on vous a désinstallé l'application, voilà. Ça vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle pas un petit Warcraft, tout ça?
On est dans le monde des méga-corporations du jeu de société, du jeu vidéo, c'est pareil.
Et en sachant que, enfin, moi j'avais acheté du coup une version d'Agricola sur tablette, mais c'était Lookout Games, donc le distributeur...
Un des tout premiers éditeurs.
Un des tout premiers, voilà. Et bon... L'édition marche toujours, mais du coup, je me souviens plus si c'était Asmodee Games qui l'avait sorti ou pas.
Faudrait que tu peux pas jouer contre quelqu'un qui a la version d'Asmodee, par exemple.
Non, impossible. Essayé. Et en plus, hein, comme on aime bien ça, toute votre progression est perdue lors de l'installation. Donc, je pense que ça ne va pas vous couper votre accès à Agricola, parce que je pense qu'il doit avoir un mode offline. Mais par contre, si vous voulez les dernières petites updates ou jouer avec des joueurs, vous n'avez pas le choix de sortir votre porte-monnaie et de raligner 5 euros.
Bah, le souci, c'est que tu as pour ce genre de jeu, tu as beaucoup de plus en plus d'applications qui se développent, mais en côté qualitatif, hein, pas en quantitatif, où tu as de plus en plus d'applications donc qui proposent ce type de jeu, limite pas en pay to win, mais tu as quelques microtransactions dans la partie, mais t'as pas forcément besoin d'acheter pour 5 euros ce genre d'application. T'as l'impression que c'est une vieille entreprise qui essaye de me placer un nouveau jeu en disant les joueurs vont acheter, alors que maintenant ceux qui sont sur Android ou même iOS sont habitués à avoir ce genre de jeu pour beaucoup moins cher.
Bah, pour continuer l'analogie avec le jeu vidéo et Blizzard, enfin Warcraft, quand Electronic Arts a racheté Warcraft, en gros la blague qui courait c'était ils sont allés voir les gens de chez Blizzard et leur ont dit qu'est-ce que vous faites, votre boîte elle fait quoi? Ah, nous on fait des jeux. Ah bon, bah vous allez arrêter, maintenant on va faire de l'argent.
Malheureusement, ça peint bien le tableau de la société de jeux actuelle qui, voilà, essaie de récolter au maximum. Bon, il faut faire avec.
Alors oui. Juste effectivement, je confirme que oui, si je désinstalle mon application Agricola, je pense que je vais pouvoir repasser par la
Est-ce
case
que tu
départ.
Veux pas essayer en live et payer 5€ juste pour le test?
Appelle ton assureur avant.
Ça va aller. Effectivement. C'était bien toujours Asmode Digital hein, qui l'a développé, mais bon.
Allez, je vous propose d'enchaîner avec une autre application mobile et qui semble cartonner même si je n'ai jamais joué une seule seconde à ce jeu, c'est Animal Crossing. J'aimerais bien que quelqu'un m'explique un peu qu'est-ce qui se passe dans ce jeu qui apparemment sort sur mobile et également sur Nintendo Switch, où nous pouvons avoir des gens qui vont passer des heures hallucinantes à jouer Animal Crossing. Est-ce que quelqu'un connaît le concept ?
C'est un mélange de jeux où tu vas faire un peu le côté cool, tu vas aller chercher des objets, faire des collections d'objets surtout, mais aussi créer une île où, sur laquelle tu atterris, entre guillemets, et tu vas devoir la gérer. Par exemple, tu vas pouvoir avoir des décors et aller sur ton île et mettre le décor que tu viens d'avoir à tel endroit. Tu vas découvrir un coquillage par terre, tu vas prendre le coquillage, tu vas aller le revendre au magasin. Le magasin va donner de l'argent que tu vas acheter un décor et le décor, tu vas le mettre sur ton île. Enfin, c'est vraiment le côté cool et relax de ce type de jeu.
On est dans le même genre de jeu. Mmh. Sims, quoi.
Et tout est multijoueur, ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux avoir sur ton île et dire que j'ouvre mes frontières et n'importe qui peut venir sur ton île en multijoueur, donc jeu en ligne, et visiter ton île. Et si tu déclares que cette personne est entre guillemets ton meilleur ami, il va pouvoir ramasser des objets avec toi ou enlever et mettre des décors, par exemple. C'est un système des Sims, mais en version beaucoup plus cool et relax, quoi.
J'allais dire, c'est une version évoluée de Habbo Hotel, non ? Je vais chercher loin dans les références.
En plus, là, t'as les graphismes, on va dire, sans être méchant, enfantins de Nintendo, qui fait que tout est mimi, tout est kawaii et compagnie. T'as le fait que t'as des îles qui sont situées, on va dire, dans l'hémisphère nord ou hémisphère sud. Donc, si tu veux vraiment faire tes collections, parce que comme tout jeu de collection se fasse bien, tu as un musée pour mettre tout ce que t'as réussi à retrouver. Il va falloir que tu trouves quelqu'un et devenir ami avec cette personne pour aller visiter son île s'il se trouve dans l'autre hémisphère que la tienne. Pour aller, par exemple, pêcher sur son île, pour avoir les poissons que toi, tu ne pourras jamais avoir sur la tienne. Donc, t'as tout un système de sociabilisation du jeu qui se met en place.
Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'Animal Crossing ? C'est tout simplement qu'on a remarqué que sur certains sites chinois, il n'est plus disponible à la vente, il a été complètement retiré. Et la communauté se pose beaucoup de questions à savoir, mais pourquoi est-ce qu'on a retiré Animal Crossing ? Et apparemment, il y aurait quelques petites raisons.
Dans la dernière émission, on avait parlé de ces gens qui s'étaient, sur Minecraft, qui avaient créé la bibliothèque interdite. Et qui était une grande bibliothèque, on pouvait consulter via Minecraft des ouvrages, des livres ou des articles qui étaient interdits dans ton pays, dans certains pays comme la Chine par exemple. Et en Chine, il y a toujours ce système de censure, c'est-à-dire que le gouvernement doit valider tout ce qui est jeux vidéo, etc., les services. Et donc, il y a des jeux qui sont pas forcément disponibles. Mais tu peux utiliser un jeu comme Animal Crossing, notamment la dernière version qui est Animal Crossing New Horizons. Tu pourrais l'utiliser, les gens l'utilisaient en Chine pour communiquer, échanger et même faire des revendications politiques dans le jeu lui-même. En mettant, je sais pas, par exemple, tu parlais d'île Rénale, sur ton île, tu peux très bien mettre un panneau qui critique le gouvernement, des choses comme ça. Alors, quelque chose, tu pourrais pas faire dans la rue, ou pas longtemps en tout cas.
Surtout qu'un truc que j'ai oublié de dire en parlant de ça, c'est que tu peux aussi mettre des choses, tu peux par exemple faire une capture d'écran ou prendre une photo et l'incorporer en tant que tapisserie, poster, et donc pouvoir incorporer des choses de l'extérieur, du monde réel, en tant que jeu à l'intérieur.
On se demande comment tu vas tapisser tes murs, hein.
Ah ça, vaut mieux pas que j'y joue. Mais ce qui fait que là, pour le jeu au niveau des Chinois, ils avaient pu prendre par exemple une photo de la personne qu'il faut pas nommer là-bas et la mettre directement entourée de flambeaux et tu as plusieurs personnes qui se regroupent sur l'île avec des paroles sur un chat en disant oui c'est pas il est pas beau, il c'est le grand méchant suprême, il faut le tuer, etc.
En gros, c'est dans un jeu. À Hong Kong, ouais. Tu as pas le droit, enfin, c'est pas bien vu de manifester dans la rue, mais tu vas manifester dans Animal Crossing.
Voilà. Et ça permet d'alimenter justement cette cause-là que la Chine ne souhaite pas avoir.
Bon, et si on fait... pas le faire dans Second Life, non? Parce que c'est tellement mieux.
Ouais, quand ils pourront pas le faire, joueur, maintenant ils peuvent plus le faire dans Animal Crossing, ils le feront peut-être dans d'autres jeux. Donc,
Et ici, on fait un parallèle notamment avec les protestations virtuelles des Hongkongais. Mais ce que j'ai pu voir dans certains épisodes de séries telles que Elementary ou Policière, la meilleure façon, si vous êtes criminel ou vendeur de drogue, etc., et que vous voulez communiquer sans vous faire remarquer, le mieux, c'est de vous connecter à un jeu vidéo et puis de parler. Voilà. Je veux pas donner de mauvaises idées.
C'est très difficile de contrôler ce que tu fais, ce que tu dis dans un jeu vidéo.
Oui, et puis pour eux, aller retracer l'historique. Il y a plein de choses que tu peux
faire sans passer par le chat. Si tu écris quelque chose dans un jeu vidéo, en texte, dans le jeu, ça, éventuellement, ça peut être capté, ça. Mais si, par exemple, tu t'amuses à écrire des mots avec de la peinture dans le jeu ou en déplaçant des objets pour que ça forme des lettres, etc., ça, tu peux pas le détecter facilement, quoi. Il y a que les autres joueurs dans la partie qui le voient. Donc, ça permet de faire passer des messages sans que vraiment ça soit détecté.
Ou tu peux simplement faire un autre système, c'est que si dans le jeu tu vends et achètes des produits du jeu à une telle somme, c'est que dans la réalité ça sera pareil. Enfin, t'as toujours une possibilité de mettre en place des choses dans l'irréel pour qu'après ce soit inconnu dans la vérité.
Donc t'es obligé de farmer dans le jeu avant d'acheter au prix que tu veux.
Ouais, ou tu fais c'est sympa le concept. Tu fais juste des propositions sur le marché et la personne qui passe va sur le marché
sans jouer normalement.
Ah oui.
C'est vrai qu'il y avait l'expression farmer chinois pendant un certain temps sur les MMO. Ouais.
Il faut que tu atteignes le niveau 120 à WoW, c'est ça? Avant de pouvoir vendre de la drogue,
ouais,
c'est ça?
Et pour ça, tu prêtes ton compte à quelqu'un et tu lui prêtes en lui donnant de l'argent, ce qui est un concept bizarre, mais qui existe. Alors, d'habitude, heureusement en France, c'est vrai qu'on a l'habitude de vous parler de Elon Musk. Et ça fait très longtemps, ça fait bien 2-3 émissions. Alors, c'est vrai qu'Elon Musk, en ce moment... travaille beaucoup, lui apparemment.
Pourquoi en ce moment?
Il arrête jamais.
Il est connu pour dormir 10 minutes par jour.
Mais il doit être dans la Lune là, non? C'est ça, il est plus sur Terre.
Sur Mars. Mars.
Ah oui,
Mars,
sur Mars, oui, pardon.
Alors d'ailleurs, j'ai pas vérifié si c'était une fake news ou non, mais il semblerait que après sa période de confinement, Elon Musk se dise, c'est vrai que c'est pas facile de rester chez soi, alors est-ce que je peux envoyer des gens pendant 7 mois dans une capsule pour aller sur Mars? Donc. Voilà, il aurait peut-être quelques doutes sur la possibilité d'aller sur Mars très prochainement. Il pense d'ailleurs que ça n'arrivera pas de son vivant. Ceci dit, ça ne l'empêche pas de développer un peu ses voitures. On connaît tous la Tesla. Et c'est vrai que Elon Musk avait comme projet des robots taxis. Alors vous vous souvenez forcément de Total Recall avec ses taxis qui conduisent tout seuls. Ici, le but sera un peu pareil. Pas de conducteur et vous montez dans la voiture et le taxi se conduit tout seul.
Dans Silicon Valley, si vous avez vu la série, il y a les voitures qui se conduisent toutes seules aussi.
Ah bah lui, forcément, dès qu'il voit un truc à la télé, à mon avis, il se dit « je pourrais faire ça avec une de mes sociétés, j'en ai tellement que je peux me le permettre ». Alors voyons voir, est-ce qu'il arrivera quand même en 2020 à monter ça, sachant que toutes les entreprises sont un peu au ralenti? C'est encore un pari pour Elon Musk, je pense. Et vu qu'on parle un peu de Tesla, je vous propose de lancer un back-to-back, comme ça improvisé. Est-ce que vous avez des musiques qui pourraient coller avec un klaxon de Tesla? C'est le thème qui a été proposé aujourd'hui pour l'émission. On a tous choisi une musique. Et qui veut ouvrir le bal du back-to-back? Reynald, est-ce que tu veux commencer?
Non, mais ça tombe toujours sur moi.
Oh, la vie est injuste.
Ouais, je vais faire mon Calimero, quoi.
Mais si je passe la musique de Pierre-Yves tout de suite, on risque de perdre trop d'auditeurs.
Non. En fait, j'ai eu un peu de mal, moi, à trouver le klaxon de la Tesla, parce que je me suis dit, Tesla, c'est censé être une voiture moderne, un peu science-fiction, avec tout l'électronique qui est à l'intérieur. Et je me voyais mal passer aussi un morceau à la radio de 10 secondes parce que c'est un klaxon, ou beaucoup moins, et par exemple, mettre la cucaracha et faire « voilà, c'est super, c'est un klaxon ». Alors je me suis dit, par contre, quand une Tesla passe à côté de moi, quel bruit qu'elle pourrait faire justement pour moi?
Et pour attirer ton attention.
Ouais, ou ce que ça pouvait représenter pour moi, par exemple. Et je me suis dit, tiens, ça, quand j'étais gamin, je regardais bien la télévision avec toutes les séries qu'il y avait, et ça m'a rappelé la série K2000. Et je me suis dit, oui, là, bah, oui, quand tu vois passer une Tesla, tu mets la musique du générique de K2000 et enfin, ça va tout seul, quoi. C'est
faut que tu ajoutes tout ça, quoi. La lumière devant qui fait.
Ouais, avec les petits. Mais... Puis la voix électrique à l'intérieur, enfin, électronique à l'intérieur.
Et t'es censé ressembler à Mikaela Seloff aussi, ou
Pas de maintenant.
Mikaela Seloff, mais non, David.
David.
Ah oui, c'était... David.
C'était Michael Knight et mais David Hasselhoff.
Exact. Yes, yes, yes.
Ça fait toujours du bien, petite K2000 comme ça. Est-ce que c'est sorti en HD, ça ? Est-ce qu'on peut revoir des épisodes avec David Hasselhoff ?
Je crois que c'est sorti en DVD à l'époque, mais maintenant, je t'avoue que je n'ai pas cherché plus tard.
Est-ce qu'on a envie surtout de revoir des épisodes ? C'est ça, je dirais.
Pourquoi le... Tu avais un problème avec K2000 ?
Le gros avantage, c'est que quand tu as vu un épisode, tu les as tous vus.
Ouais, non, à l'époque, j'aimais beaucoup. J'adorais. Non.
Tu les as pas tous vus, parce qu'à la fin, il se battait contre lui-même. Enfin, la voiture se battait contre... Ça, la...
ouais, car. Mais... Contre car. Ouais. Et il y a même une ressortie, quoi, je crois, dans les années 2000. Enfin bon.
Ouais, il y a eu plein de choses.
Oui.
Il y a eu, deux téléfilms, je crois, de mémoire, que j'ai pas vu. Il y a eu une série qui a été les Twins K, un truc comme ça, qui était justement la suite de K2000, mais c'était vraiment inconnu au bataillon. C'est pas arrivé en France, je pense pas. Mais bon, de toute façon, rien vaut l'original.
Allez, on va enchaîner avec d'autres petites activités que vous pouvez faire à la maison. Et j'ai vu sur le site de Donjons et Dragons qu'il y avait une possibilité d'imprimer vous-même une sorte d'édition simplifiée de Donjons et Dragons. Donc ils ont sorti un livre de règles, un livre de monstres, un livre de joueurs sur lequel vous pouvez faire de petites campagnes à condition que vous avez assez de personnes à la maison pour le faire. Après, il y a toujours des plateformes qui peuvent vous aider justement à lancer des jeux, hein. On en parle souvent. Est-ce que ça vous manque, vous, le Donjon Dragon ? Ou ça a été trop revu ?
Alors, non, Donjon Dragon...
Ça continue à évoluer,
hein. Ouais, enfin, Donjon Dragon en tant que tel, bon. Je cherche des scénarios plus évolués que ça, qu'en fait. Ça date de... Ça fait 50 ans maintenant, je pense, les premiers. Dans les 70.
Bah, à la rigueur, ouais, tu prends le matériel des scénarios parce qu'ils sont toujours prolifiques sur les livres qu'ils éditent. Mmh. D'ailleurs, beaucoup qui jouent encore à Donjons et Dragons avec la dernière version achètent les livres en anglais, coûtant moins cher en plus pour exactement la même chose, en attendant plusieurs mois d'attente de traduction. Mais tu prends les bouquins, tu prends le matériau qui est à l'intérieur pour en faire tes propres scénarios de ton propre jeu de rôle. Mais de là à faire un jeu de rôle Donjons et Dragons, comme ça a été dit, il y a entre guillemets mieux et surtout des choses nouvelles.
Il y a toujours plein de gens qui font, je pense que cette chose, ça va être le jeu le plus joué quand même, toujours. De toute façon, aux États-Unis, ils disent pas jouer au jeu de rôle, ils disent jouer à Donjons et Dragons. C'est presque dans le langage commun.
Hashtag Stranger Things.
Ah oui, c'est ça. Oui. L'expression, du coup, c'est jouer à Donjons et Dragons.
Ouais. Un jeu de rôle, c'est un Donjons et Dragons, quoi.
Après, ça peut être intéressant si depuis plusieurs années, tu as toujours ton personnage et que l'aventure dure et dure. Là, c'est peut-être un bon prétexte de continuer à jouer à Donjons Dragons et peut-être d'acheter les nouveaux bouquins, puisque, bon, on est à quelle édition là, la 7 ou 5
La 5, selon. Ah, zut.
À l'époque, c'est vrai qu'on était, on commençait à peine à jouer au Donjon Dragon 2, que le 3 sort et on a pas le temps de lire tous les bouquins, qu'il y a déjà une nouvelle version. C'était un peu frustrant à l'époque. Apparemment, ils se sont ralentis un peu, tant mieux.
C'était quand même un peu long pour monter ton perso, au moins au niveau 20, quoi. Donc,
après, il fallait un maître de jeu assez sympathique, hein. Tout peut s'arranger avec le maître de jeu, généralement. Il n'y a pas que Donjons et Dragons qui est disponible actuellement, il y a d'autres jeux. Pierre-Yves, toi, tu avais détecté quelque chose.
Oui, j'ai vu. Alors, chez Yellow, il y a Château Aventure, où quelques scénarios sont disponibles en téléchargement. Alors, ce jeu, en fait, donc vous êtes un petit groupe de joueurs, et c'est un peu comme les vieux jeux textuels, où en gros, donc là, il y a un maître de jeu qui vous présente la scène, la pièce dans laquelle vous êtes, et pour dire ce que vous faites, ben, vous faites une petite phrase avec un verbe, et puis, admettons, tiens, ouvrir porte, ou aller à l'est, ou donner clé à un autre joueur. Un peu comme les vieux jeux textuels. Et puis du coup, le maître de jeu, lui, réagit en fonction de ce que vous faites, en vous disant, je n'ai pas compris l'action, ou bien, par exemple, si vous avez une clé qui vous permet d'ouvrir la porte, hop, il vous dit, la porte est ouverte. Et donc vous avez aussi un système de sauvegarde, en fait, comme ça, si jamais vous allez au-delà et que l'un de vos personnages meurt, vous pouvez recharger la sauvegarde et revenir avant la fameuse tragédie.
Donc, la particularité, c'est que quand tu jouais aux jeux d'aventure comme ça sur ton ordinateur, parce qu'il n'y avait même pas internet à l'époque, tu étais tout seul, donc tu tapais les commandes, et puis quand tu mourais, tu recommençais le jeu, etc. Là, le côté amusant, c'est que les joueurs vont donner un ordre à tour de rôle. Tout le monde joue le même personnage, mais le premier joueur va dire, par exemple, je vais à l'est. Puis le deuxième joueur, il va dire, bah, je fouille la pièce, etc. Le troisième, et c'est pas le même joueur qui va enchaîner les actions. Ce qui fait que tous les joueurs doivent, tu peux très bien t'amuser en plein milieu. Il y en a un qui va à l'est, et puis il y en a un qui dit, alors, je vais au nord maintenant, alors qu'il sait très bien qu'il faut aller au sud, etc. Enfin, pour résoudre les énigmes et sortir un peu de l'aventure, il faut coopérer ensemble.
Ouais, c'est pas un run die repeat, mais effectivement, faut collaborer ensemble. Faut aussi avoir une bonne mémoire de ce qui s'est passé. Et puis, ce qui est bien, c'est que vous pouvez jouer avec des enfants qui ont 8 ans, comme avec des adultes. Enfin, c'est vraiment accessible à tous. Et ça vous permet de passer un très très bon moment en famille ou avec des amis.
La boîte est sortie dans le commerce, elle coûte entre 25 et 30 euros. Et puis, dedans, il y a une dizaine de scénarios. Attends, je l'ai, j'attrape la boîte. Hop, en direct.
10-12.
Il y a 10-12 scénarios dedans, et il y en a qui sont plus ou moins compliqués, il y a différents niveaux, oui, donc c'est vraiment pas mal. Et donc, chez Yellow, donc tu allais le dire, ils ont donné des versions à imprimer.
Oui, il y a 3 scénarios qu'on peut télécharger.
Donc c'est un jeu de société basé sur un jeu vidéo, c'est ça?
Ça, les anciens jeux d'aventure.
Qui prend la...
C'est l'inspiration, jeu vidéo, mais il n'y a pas eu de jeu vidéo en tant que tel, Château Aventure.
Mais ça s'inspire du mode de jeu d'un jeu vidéo. C'est assez sympa.
Oui, c'est très amusant. Effectivement, ça se joue à tour de rôle.
On a plusieurs petits jeux à vous proposer. Le premier étant Trilogique, qui vous propose de jouer un peu les déesses de la nature et de s'affronter dans un duel pour contrôler les forêts. Alors, vous devez imprimer des petits pions avec des symboles d'arbres ou de feuilles, c'est ça?
C'est ça. C'est un jeu qui se joue à deux, un petit peu à la façon des échecs. Hein. En fait, le principe, c'est qu'il y a, donc, il y a 3 couleurs. Il y a des pions rouges, des pions bleus et des pions verts. On les mélange, on fait des piles pour former un carré de 3 sur 3. Et on joue à tour de rôle. Et à chaque fois, on va devoir soit prendre une pile, on va devoir prendre une des piles de pions, les regarder et en reposer un certain nombre sur la table. Et petit à petit, ça va éliminer les pions. Le truc, c'est que celui qui gagne, on va peut-être dire comment on gagne, c'est le premier joueur qui a réussi à atteindre son objectif. Et l'objectif, c'est de faire un alignement, un petit peu comme au morpion, d'aligner 3 pions de la même couleur et d'avoir l'objectif qui correspond. Le truc, c'est que les joueurs vont découvrir au fur et à mesure, petit à petit, le plateau de jeu et débloquer et découvrir leur objectif au fur et à mesure aussi. Il n'y a pas beaucoup de matériel, c'est très simple, et c'est très prenant, c'est très très malin comme jeu. Alors là, pour une part, il y a des jeux où t'es pas obligé d'imprimer le jeu, hein. Si t'as pas d'imprimante, tu peux simplement, à la limite, le recopier sur un papier, etc. Mais là, à moins d'avoir des pions de plusieurs couleurs, il va falloir imprimer le jeu.
C'est toujours possible si tu veux le faire toi-même. Ça prend un peu plus de temps. Alors, on enchaîne avec un peu de Elon Musk et on reviendra sur quelques autres jeux en PNP. On suit de très près l'actualité d'Elon Musk, en tout cas pour ma part. Et je ne sais pas si vous avez vu, au début de l'épidémie, il avait fait plusieurs commentaires en disant « Faites attention parce que la peur du virus peut faire plus de dégâts que ce qu'il en est réellement », qui avait plus ou moins déchaîné un peu les réseaux sociaux. Et c'est vrai que bon, il est un peu revenu sur ses propos et a promis d'envoyer en signe d'aide, puisque des gens mettaient en commentaire « Est-ce que tu voudrais pas plutôt que de lancer des commentaires comme ça un peu débiles, plutôt mettre une priorité sur tes usines pour qu'elles fabriquent soit des respirateurs ou des masques ». Et c'est ce qu'il a fait, il a envoyé plus de 1200 respirateurs et plus de 50 000 masques sortis de ses usines, sauf que les respirateurs qu'il a plus ou moins envoyés ne sont pas vraiment utiles pour les personnes atteintes d'une maladie respiratoire puissante comme celle qu'on peut voir en ce moment, puisqu'il n'arrive pas à pomper l'air dans les poumons aussi bas que prévu. Mais cependant, et c'est là qu'il y a une sorte de polémique, c'est que avant d'envoyer les respirateurs, il a contacté les hôpitaux en disant « Voilà, moi je vais fournir tel modèle de respirateur, est-ce que ça va vous être utile ?» C'est la question qu'il a posée. Les hôpitaux ont dit « Bien sûr, puisqu'on va dans ce cas-là avoir un deuxième type de respirateur pour des maladies un peu moins fortes. » La majorité des gens disent « Oui, mais tu as envoyé des respirateurs qui ne fonctionnent pas. » Et lui se défend en disant bah, « J'ai demandé justement l'autorisation. » Voilà. Ça devient assez habituel pour Elon Musk d'avoir des polémiques quant aux produits qu'il fabrique. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
C'est pour que tu achètes le Grail en fait. Qui lui prend la version et puis tu payes un peu après pour avoir la version complète.
En fait, il peut faire une mise à jour à distance pour que ça passe dans un respirateur normal. C'est pas mal. Et vu qu'on parle à Elon Musk et nous sommes en challenge back to back, chacun ramener sa musique. Moi, j'ai ramené une petite musique pour le thème, c'est quel klaxon aimeriez-vous au niveau de votre Tesla ? Et moi, j'ai proposé un célèbre tube créé par George Michael avec cette fameuse mélodie au saxophone que vous connaissez tous. Et moi, je me voyais bien appuyer sur le klaxon et avoir cette musique qui défile en pleine rue. Il ne faut pas avoir peur du ridicule.
Ah oui, effectivement, oui, parce que je pense que tout le monde va te regarder.
Mais je n'ai pas choisi une version commune de Careless Whisper. J'ai pris une autre version qui a été faite par Seether. Donc c'est une version un peu rock, métal, de cette version de George Michael.
Super!
Allez, un autre petit jeu comme promis, et c'est édité cette fois-ci par les 12 singes.
En fait, c'est pas un jeu, c'est l'éditeur des 12 singes, qui est généralement un éditeur de jeux de rôle, qui met à disposition de tous, gratuitement, une version light de ses scénarios qui est prévue sur une collection de 6, qui est par exemple 6 étoiles ou 6 cauchemars. Donc c'est un recueil, par exemple pour 6 cauchemars, c'est un recueil de 6 scénarios sur le thème du cauchemar que vous pouvez adapter à votre jeu de rôle qui n'est pas forcément typé sur un jeu de rôle précis. Là, ils mettent dans leur news que par semaine, ils mettront un scénario tiré de cette collection gratuitement qu'on peut télécharger en PDF sur leur site. Actuellement, il y a 3 scénarios déjà.
Alors dans les 3 scénarios, bon, c'est quand même des sujets assez différents, parce qu'il y en a un, c'est plutôt des vaisseaux dans l'espace, l'autre, ça se passe plutôt dans le désert irakien. Donc bon, c'est assez difficile en fait de jouer sur le même jeu avec les 3 scénarios.
Donc tu veux dire qu'avec Donjons et Dragons, je ne pourrais pas aller dans un vaisseau dans l'espace?
C'est un peu compliqué. Un peu plus compliqué, effectivement.
Mais ce qui est bien, voilà, ce qui est bien avec ce scénario qui est donné en PDF sur le site de l'éditeur, c'est qu'il y a tout. Il y a vraiment le scénario, les différents actes qui vont devoir se passer pendant le scénario. Il y a les fiches de personnages, mais on va dire très light, parce que forcément, faut que ça soit adapté à votre jeu de rôle précis. Il y a les compétences, il y a des équipements, il y a vraiment tout. Limite ce qu'il faut pour jouer même comme ça en créant votre propre jeu de rôle sans souci.
Dans le même thème, nous avons un autre jeu d'histoire et un peu d'improvisation qui s'appelle Petites Histoires. Est-ce que vous avez vu ce contenu qui est actuellement mis à disposition en téléchargement gratuit? Est-ce que quelqu'un connaît ça?
Ça me dit rien.
C'était non. Traduit d'un jeu anglais qui s'appelle Tiny Stories. Et en gros, vous avez donc forcément du texte et des illustrations. Et à partir de ça, vous allez créer des petites histoires. Et vous avez une sorte de narration libre. Et voilà, vous devez faire évoluer votre héros. Ça se joue à plus de 2 joueurs. Vous avez juste besoin d'un papier, un crayon et des dés.
En fait, le principe, c'est que on va imaginer un héros, un petit peu comme dans le jeu dont on parlait tout à l'heure. On imagine un héros, hein, on imagine dans quelle situation elle est et quel est son but. Est-ce qu'il veut sauver le monde? Est-ce qu'il veut délivrer une princesse? Hein, les trucs classiques, on va dire. Et on a des tas de petites questions. C'est vraiment adapté pour les enfants. Et ensuite, si ça dépend du nombre de joueurs qu'on est, soit on utilise un dé, soit on met un papier sur lequel on met un chiffre 1, un chiffre 2, un chiffre 3, puis on les mélange pour ça, parce que à chaque tour, les rôles vont changer. Le joueur qui va tirer le numéro 1, lui, devra décrire une action que le héros va faire. Le joueur, qui est le papier numéro 2, va décider du résultat de l'action, si ça se passe bien, etc., ou est-ce qu'il y a des conséquences. Et le joueur numéro 3, lui, le papier numéro 3, va devoir ajouter une complication, un rebondissement, des choses comme ça. Mais on va continuer un petit peu comme ça, jusqu'à ce que c'est une façon un petit peu différente d'inventer une histoire. Ça reste du jeu de rôle, mais c'est du jeu de rôle un petit peu différent, un petit peu plus narratif, et qu'on construit l'aventure ensemble. On n'a pas de scénario préécrit, on n'a pas d'aventure avec un début et une fin. On va devoir l'imaginer au fur et à mesure.
C'est toujours sympa, les petits jeux comme ça d'ambiance.
Là, c'est vraiment une initiation pour les enfants, pour les plus jeunes, quoi. Et entre grands, ça doit être sympa aussi à jouer. Ça ne sera pas les mêmes sujets.
Surtout s'il y en a un qui veut pourrir l'ambiance, hein, il peut vite.
On n'a pas ça dans notre groupe de joueurs.
Non, pas du
tout. On n'a que ça.
Coopération.
Attention, un petit instant, Elon Musk à nouveau. Et je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, Elon Musk, avec sa compagnie SpaceX, a envoyé de plus en plus de satellites, puisqu'il veut créer une sorte d'Internet, ou en tout cas des connexions haut débit via satellite. Et pour ça, il a lancé une flotte. Il en lance maintenant plus ou moins régulièrement. On peut remarquer, et peut-être un jour ça va vous arriver, vous allez regarder le ciel de nuit et vous allez voir une longue rangée de petites étoiles qui se baladent comme ça. ce ne sont pas des ovnis, ce sont tout simplement les satellites.
C'est Starlink.
Apparemment, vu qu'en ce moment, la conquête de Mars se fait un peu difficile, il a décidé de redoubler d'efforts. Ouais, l'autour de la Terre. Voilà. Donc c'est un peu inquiétant. Alors surtout maintenant qu'il y a moins de pollution, on voit de plus en plus les étoiles. Et donc on risque de voir un peu cette pollution visuelle. Hein, voilà, appelons ça comme ça l'est. Et il paraît même que maintenant on peut voir le logo d'Universal qui tourne autour de la Terre. Il y a moins de pollution.
J'ai un peu de mal à y croire quand même.
Dominique,
ils sont en orbite géostationnaire ou pas ? Enfin, moi, il me semblait qu'ils étaient en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km de la Terre. Donc, j'ai un peu de mal à voir comment tu peux les voir aussi facilement du sol.
Tout simplement parce qu'il y a une réflexion du soleil et de nuit, tu les vois.
Et puis c'est comme les avions, t'as un petit bip d'éclairant qui passe parce qu'ils doivent se faire la chaîne. Ouais.
Ils sont pour la course.
Forcément.
Encore, je trouve ça marrant de voir passer l'ISS et de regarder sur Internet si c'était bien l'ISS qui parcourait et tout, alors qu'une rangée de satellites, c'est peut-être moins fun. Voilà.
Ouais. Enfin, attention, hein, j'ai quand même lu sur Internet que la 5G, c'était peut-être elle qui diffusait le coronavirus. Hein, alors attention.
On va faire, si tu veux, la prochaine émission, on va résumer tous les fake news qu'on a pu voir sur l'épidémie. Et je pense qu'on a des choses très, très perchées. Hein. Alors, Dominique, qu'as-tu choisi pour ce thème de back-to-back ? Quel klaxon choisirais-tu pour ta Tesla ?
Ah, comme c'est une voiture entièrement électrique, j'ai cherché une chanson sur le thème de l'électricité. Et il y a quelques années, il y a le groupe français Zoufri Maracas qui avait écrit une magnifique chanson sur la fée électricité.
Zoufri Maracas.
Zoufri Maracas, absolument.
C'est tiré de BD Musique ou...
Non, c'est un groupe très sérieux qui a commencé, ça fait 5-6 ans qu'ils ont commencé à peu près.
Ouais, par contre, François, évite de dire nos fournisseurs de musique pour les back-to-back, s'il te plaît.
Il y a Ringard Wilcat sur YouTube.
Pour un peu d'électricité, on hypothèque l'humanité. Pour quelques heures de kilowatts, on se retrouve à quatre pattes, prêt à se faire sodomiser par la fée électricité qui nous ferait tranquillement vendre notre femme et nos enfants. Les petits gars de l'EDF disent que le vent ça suffit pas, que le soleil c'est pas bézef, que l'hydrolien ça marche pas. Pour assurer le samedi, la consommation d'énergie, y'a rien qui peut mieux faire l'affaire qu'une bonne vieille centrale nucléaire. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Car ce qu'ils oublient de vous dire, pour le meilleur comme pour le pire, c'est que le cadeau qu'ils vous ont fait, il va falloir s'en occuper. Pour vos enfants, ça peut aller. Vous aurez le temps de leur expliquer que vous êtes fait niquer sur une affaire d'une centrale nucléaire. Mais les enfants de vos enfants, les petits-enfants de vos petits-enfants, allez leur dire la belle affaire qu'ils en ont pour 100 millénaires. Des générations d'enfilés par la fée électricité pour que notre foutue société puisse regarder sa télé. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Une terre par tête, mets tous la gueule par terre. Pour quelques tonnes de CO2, on hypothèque l'humanité. On s'échange ça comme on peut au rendez-vous de l'OMC. Pour quelques barils de pétrole, on buterait la terre entière. Mais mon confort et ma bagnole méritent bien une petite guerre. Pour une centaine d'abrutis qu'on a trop longtemps laissé faire, des businessmen et des nantis qui évoluent en haute sphère, des politiques ramollies, des industriels gravataires. On se retrouve tous punis, tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre. Une terre par tête, mais tous la gueule par terre.
Voilà, c'était Soufris Maracas avec la fée électricité. Si ça vous donne pas envie de conduire une Tesla. Quelques derniers petits jeux qui vous ont plus ou moins marqué et qui sont possibles. Que l'on peut jouer chez soi, éventuellement en PNP, en print and play.
Un petit jeu que je vous propose, moi, qui est sorti en version numérique sur PC et puis sur les tablettes, c'est Charterstone. Alors, c'était déjà un jeu de plateau avant. Hein.
Absolument.
D'ailleurs, je pense que certains d'entre vous l'ont, non, Dominique, il me semble que tu
l'avais. Oui, oui, on a une partie avec Reynald et d'autres amis. On a une partie en cours de Charterstone. Ouais. C'est un jeu évolutif et il y a, on va dire qu'il y a une douzaine de parties à faire. Il y a une douzaine d'épisodes et on en est bloqué. La dernière fois qu'on a joué, je crois qu'on était bloqué à la sixième ou septième partie. Bah, le problème, c'est que comme on peut pas se réunir, bah, les prochains, ouais. la fin de l'aventure, on verra quand on pourra poursuivre, quoi.
Et bah, du coup, peut-être qu'en jouant à la version numérique, vous pourrez continuer, repartir de zéro surtout. Parce qu'effectivement, c'est un mode legacy, donc d'une partie à l'autre, vous continuez avec ce que vous avez acquis lors de la partie précédente.
C'est le souci du jeu, quoi. J'ai hésité à me l'acheter, la version digitale, la version numérique. Mais le problème, c'est que nous, c'est un jeu dans lequel, effectivement, c'est du legacy, c'est-à-dire que le jeu va évoluer en fonction des parties que tu fais, et tu vas découvrir des secrets petit à petit. Le problème, c'est que nous, on en est à la moitié du jeu, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Et les autres, il y a d'autres joueurs qui l'ont fini le jeu et qui dévoilent pas les secrets. Mais le problème, c'est que si je joue à la version digitale, je vais découvrir certaines choses que je suis pas censé connaître dans la partie physique. Donc, même si je l'achetais, j'essaierai de pas dépasser la moitié du jeu.
C'est vrai qu'on a discuté une fois avec d'autres joueurs qui eux étaient beaucoup plus loin que nous et on leur donnait nos ressentis en pensant que bah pour l'instant il y a pas les premiers scénarios, bon peut-être qu'ils mettent la mise en place du jeu mais bof pas trop, mais eux ils nous ont dit on peut rien te dire mais à partir du scénario 6 et 7 il y a des choses qui se débloquent et les choix que t'as fait avant ça va être primordial. Et ça nous a relancé et on a refait 2-3 parties d'affilée derrière. Mais donc, on a hâte que le confinement s'arrête.
On en a fait plusieurs des jeux Legacy. Et je pense, Dom, toi, ce qui doit te frustrer, c'est que tu peux pas arracher les cartes dans la version digitale et être sûr que personne va les réutiliser derrière.
Ah oui, parce que quand le type de jeu Legacy est arrivé, donc c'est le jeu de société où le jeu évolue, il y a des parties secrètes dans le jeu que tu vas découvrir petit à petit, et en plus tu peux modifier, il y a un des aspects amusants, c'est que tu modifies le plateau de jeu. Par exemple dans Charterstone, à un moment tu as un village et tu vas devoir donner un nom à ton village, donc tu prends un crayon et tu écris sur le plateau le nom du village que tu donnes au village, ou quand il y a des personnages tu leur donnes un nom et tu écris sur la carte du personnage. Il y a des autocollants que tu viens coller sur ton plateau, il y a des cartes qui servent pas, et le truc c'est que dans le jeu il y a la règle qui dit quand tu as cette carte, tu la déchires et tu dois vraiment déchirer une carte qui est dans le jeu et l'acheter à la poubelle. Et c'est ce qui a choqué beaucoup de joueurs traditionnels, quoi. Mais là, peut-être que dans l'animation, dans l'application, il y a peut-être un bruit où on peut peut-être déchirer la carte en secouant ton téléphone, je sais pas.
Mais voilà, ce qui fait que lorsque vous achetez un jeu Legacy, vous savez que vous allez quasiment y jouer qu'une seule fois.
Pas forcément, parce qu'une fois qu'il est fini, ton plateau est écrit et tu peux continuer à jouer avec le plateau. Alors, tu ne feras plus évoluer, mais tu peux continuer.
Mais tu dois jouer avec les mêmes joueurs. Tu ne peux pas dire, tiens,
Une fois que le jeu est fini, tu peux jouer avec qui tu veux. Il faudra juste qu'il s'adapte aux règles et qu'il joue avec les noms.
Ouais, tu joues juste avec
choisi, etc. C'est tout. Mais le jeu. Et en plus, ton jeu est unique. C'est-à-dire que deux groupes de joueurs qui jouent au même jeu, au bout de quand ils auront fini la partie, ils n'auront pas le même look à la fin. Puisqu'ils auront des noms différents, des règles différentes. Il y aura peut-être des endroits du jeu qui ont disparu dans un jeu et dans une partie et pas l'autre. C'est ça qui est intéressant dans le Legacy. Mmh, et
puis t'as des packs de remise à zéro, oui. Comme je crois que pour Charterstone, t'as un plateau recto verso, et ils te redonnent un pack, mais juste pour remettre les cartes qui te manquent, que t'as dû utiliser ou autre, et tu peux refaire une deuxième partie sur
je
le
Je pense que parmi les jeux Legacy et les plus célèbres, on a Pandémie Legacy. Et puis aussi, Risk Legacy, vous en parliez tout à l'heure, effectivement.
C'était le premier, le plus connu, parce qu'ils avaient repris le principe du risque, qui est un jeu hyper connu auquel grand monde joue, et il avait vraiment, grâce au système Legacy, donné une nouvelle vie, une nouvelle jeunesse.
Alors, Dominique, si tu cherches ta version de Risk Legacy, elle est chez moi.
Mais je sais, un jour, on y jouera.
Et je n'ai rien touché, elle est telle qu'elle, la Chine est toujours en bon point.
C'est pas spoiler.
À quoi vous jouez, vous, en ce moment, d'ailleurs, sur mobile?
À la nouvelle version d'Asmodée, avec quoi?
Genre, je viens déjà de dépenser mes 5 euros.
Non, moi, la dernière fois, j'ai joué à Terraforming Mars, parce que, du coup, maintenant, il y a la version... il y a le draft aussi qui est possible. Alors, malheureusement, il manque toutes les extensions, donc c'est vraiment dommage. Mais je voulais voir ce que ça donnait, et bon, c'est quand même sympa de jouer à Terraforming Mars... ça évite de devoir prendre beaucoup de place sur la table, et puis quand vous voulez jouer comme ça rapidement, c'est sympa.
Pour ma part, j'ai installé Sea of Thieves, alors c'est pas sur mobile du coup, c'est sur PC, où on navigue en tant que pirate dans un univers un peu cartoonesque, mais avec des graphismes assez sympathiques, notamment au niveau de la motion de l'eau lorsque vous naviguez, c'est vachement sympa. Et c'est un jeu où je tiens à tirer mon chapeau, puisqu'il y a beaucoup d'achats dans le jeu, mais il n'y a rien qui change votre expérience de jeu, ça veut dire que tout est cosmétique. Il n'y a strictement rien qui va vous avantager par rapport à un autre joueur. Et je trouve ça assez formidable de tenir comme ça sur la longueur pendant plus d'une année des joueurs juste avec du cosmétique. Et là, il continue à évoluer le jeu malgré que, un peu comme les jeux comme Overwatch, etc., ils ont déjà vendu leur jeu à la majorité de gens. Donc les revenus se font moindres au niveau du temps, mais ils continuent à faire des mises à jour. Donc voilà, à souligner, puisque généralement certains éditeurs se profitent de sortir un jeu et ensuite de ne plus faire aucune mise à jour. Je pense à tous ces jeux de survival sur Steam qui ont récolté une tonne d'argent pour recréer un autre jeu similaire derrière. C'est hallucinant. Pierre-Yves, qu'est-ce que tu as choisi pour ta musique de Tesla ? Alors, je tiens à signaler, ainsi, on a parlé de beaucoup de jeux PNP. Si vous voulez retrouver un peu les liens, comment imprimer tous ces jeux, ou vous aviez des news qui vous ont marqué, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux. Heureusement, en France, vous retrouvez toutes les actualités dont nous avons parlé.
Et les liens de l'émission.
Effectivement. Et si vous allez sur le site anotherpodcast.fr, il y a même des petits bonus. Alors, Pierre-Yves, qu'as-tu choisi pour le klaxon de ta Tesla ? C'est ta première, c'est ton premier back-to-back dans Heureusement en France, et on te laisse l'honneur de clôturer l'émission, sachant qu'après nous, il y a l'écho des gnous, et tu auras des réprimandes si jamais c'est pas bien.
Quel honneur, merci beaucoup pour cette émission. Alors moi, la Tesla, en fait, c'est vraiment la voiture qui se conduit toute seule. Donc tu t'installes, t'as rien à faire, hein, tu regardes, enfin si tu rentres juste à destination et ça se conduit tout seul, donc tu peux faire ce que tu veux, parce que bon, même si les gens qui aiment conduire, c'est toujours intéressant, j'ai quand même toujours trouvé que c'était un peu une perte de temps, d'où l'intérêt d'avoir vraiment une voiture qui se conduit, je veux dire, sans conducteur. Donc en fait, c'est récemment là, à la télé, il y a le film Once Upon a Time in Hollywood qui est ressorti, et à chaque fois les films de Tarantino, j'adore les bandes son. Enfin, pour moi, c'est toujours un plaisir de redécouvrir des musiques, des vieilles musiques. Et il y a une scène, en fait, bah, c'est l'une des héroïnes du film qui est au volant de sa voiture. Et donc, alors, c'est pas une Tesla, elle se conduit pas toute seule, mais bon. Et donc, elle lance sa musique. Et puis, c'est une musique que je connaissais pas, que j'adorais. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette musique pour mon klaxon. Et donc, la musique, c'est The Cycle Game par Buffy Sainte-Marie.
Super, bah on s'écoute ça. Voilà, c'est la fin de cette émission. On vous souhaite à tous une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 18h, 19h, pour un nouvel Heureusement en France. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.
Ciao. Chers auditeurs, il est 19h, l'heure de retrouver les informations. À demain pour de nouvelles aventures.
Fin de la retransmission.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite. Summers.